surgir le silence qui était profond, absolu, un silence noir. Des hommes en blouse blanche abordaient les soldats, leur disaient un mot et s'évanouissaient comme des fantômes. Le poste de l'école polytechnique regorgeait de monde. Des femmes encombraient le seuil, demandant à voir leur fils ou leur mari. On les renvoyait au panthéon transformé en dépôt de cadavres, et on n'écoutait pas Frédéric. Il s'obstina, jurant que son ami du Sardier l'attendait, allait mourir. On lui donna enfin un caporal pour le mener au haut de la rue Saint-Jacques, à la mairie du 12e arrondissement. La place du Panthéon était pleine de soldats couchés sur de la paille. Le jour se levait. Les feux de bivac s'éteignaient. L'insurrection avait laissé dans ce quartier-là des traces formidables. Le sol des rues se trouvait, d'un bout à l'autre, inégalement bosselé. Sur les barricades en ruine, il restait des omnibus, des tuyaux de gaz, des roues de charrette. De petites flaques noires, en de certains endroits, devaient être du sang. Les maisons étaient criblées de projectiles, et leurs charpentes se montraient sous les écaillures du plâtre. Des jalousies, tenant par un clou, pendaient comme des haillons. Les escaliers ayant croulé, des portes s'ouvraient sur le vide. On apercevait à l'intérieur des chambres avec leurs papiers en lambeaux. Des choses délicates s'y étaient conservées, quelquefois. Frédéric observa une pendule, un bâton de perroquet, des gravures. Quand il entra dans la mairie, les gardes nationaux bavardaient intarissablement sur les mots de Bréa et de Négrier, du représentant Charbonnel et de l'archevêque de Paris. On disait que le duc d'Aumale était débarqué à Boulogne, Barbès en fut de Vienne, que l'artillerie arrivait de Bourges et que les secours de la province affluaient. Vers 3 heures, quelqu'un apporta de bonnes nouvelles. Des parlementaires de l'émeute étaient chez le président de l'Assemblée. Alors, on se réjouit, et comme il avait encore 12 francs, Frédéric fit venir 12 bouteilles de vin, espérant par là hâter sa délivrance. Tout à coup, on crut entendre une fusillade. Les libations s'arrêtèrent. On regarda l'inconnu avec des yeux méfiants. Ce pouvait être Henri V. Pour n'avoir aucune responsabilité, ils le transportèrent à la mairie du 11e arrondissement, d'où on ne lui permit pas de sortir avant 9 heures du matin. Il alla en courant jusqu'au quai Voltaire. À une fenêtre ouverte, un vieillard en manche de chemise pleurait, les yeux levés. La Seine coulait paisiblement, le ciel était tout bleu. Dans les arbres des Tuileries, des oiseaux chantaient. Frédéric traversait le carrousel quand une civière vint à passer. Le poste, tout de suite, présenta les armes, et l'officier dit en mettant la main à son shako : Honneur au courage malheureux. Cette parole était devenue presque obligatoire. Celui qui la prononçait paraissait toujours solennellement ému. Un groupe de gens furieux escortait la civière en criant « Nous vous vengerons! Nous vous vengerons !» Les voitures circulaient sur le boulevard et des femmes devant les portes faisaient de la charpie. Cependant, l'émeute était vaincue, ou à peu près. Une proclamation de Cavaignac, affichée tout à l'heure, l'annonçait. Au haut de la rue Vivienne, un peloton de mobiles apparut. Alors, les bourgeois poussèrent des cris d'enthousiasme. Ils levaient leurs chapeaux, applaudissaient, dansaient, voulaient les embrasser, leur offrir à boire, et des fleurs jetées par des dames tombaient des balcons. Enfin, à 10 heures, au moment où le canon grondait pour prendre le faubourg Saint-Antoine, Frédéric arriva chez Dussardier. Il le trouva dans sa mansarde, étendu sur le dos et dormant. De la pièce voisine, une femme sortit à pas muets, Mademoiselle Vatnaz. Elle emmena Frédéric à l'écart et lui apprit comment Dussardier avait reçu sa blessure. Le samedi, au haut d'une barricade, dans la rue Lafayette, un gamin enveloppé d'un drapeau tricolore criait aux gardes nationaux « Allez-vous tirer contre vos frères ?» Comme il s'avançait, Dussardier avait jeté bas son fusil, écarté les autres, bondi sur la barricade et d'un coup de savate abattu l'insurgé en lui arrachant le drapeau. On l'avait retrouvé sous les décombres, la cuisse percée d'un lingot de cuivre. Il avait fallu débrider la plaie, extraire le projectile. Mademoiselle Vatnaz était arrivée le soir même et depuis ce temps-là ne le quittait plus. Elle préparait avec intelligence tout ce qu'il fallait pour les pansements, l'aider à boire, épier ses moindres désirs, allait et venait, plus légère qu'une mouche, et le contemplait avec des yeux tendres. Frédéric, pendant 2 semaines, ne manqua pas de revenir tous les matins. Un jour qu'il parlait du dévouement de la Vatnaz, Dussardier haussa les épaules. « Eh non, c'est par intérêt. « Tu crois ? » il reprit. « J'en suis sûr, sans vouloir s'expliquer davantage. » Elle le comblait de prévenances, jusqu'à lui apporter les journaux où l'on exaltait sa belle action. Ses hommages paraissaient l'importuner. Il avouait même à Frédéric l'embarras de sa conscience. Peut-être qu'il aurait dû se mettre de l'autre bord, avec les blouses. Car enfin, on leur avait promis un tas de choses qu'on n'avait pas tenues. Leurs vainqueurs détestaient la République. Et puis, on s'était montré bien dur pour eux. Ils avaient tort, sans doute, pas tout à fait, cependant. Et le brave garçon était torturé par cette idée qu'il pouvait avoir combattu la justice. Sénégal, enfermé aux Tuileries sous la terrasse du bord de l'eau, n'avait rien de ces angoisses. Ils étaient là, 900 hommes, entassés dans l'ordure, pêle-mêle, noirs de poudre et de sang caillé, grelottant la fièvre, criant de rage. Et on ne retirait pas ceux qui venaient à mourir parmi les autres. Quelquefois, au bruit soudain d'une détonation, ils croyaient qu'on allait tous les fusiller. Alors ils se précipitaient contre les murs, puis retombaient à leur place, tellement hébétés par la douleur, qu'il leur semblait vivre dans un cauchemar, une hallucination funèbre. La lampe suspendue à la voûte avait l'air d'une tache de sang, et de petites flammes vertes et jaunes voltigeaient, produites par les émanations du caveau. Dans la crainte des épidémies, une commission fut nommée. Dès les premières marches, le président se rejeta en arrière, épouvanté par l'odeur des excréments et des cadavres. Quand les prisonniers s'approchaient d'un soupirail, les gardes nationaux qui étaient de faction pour les empêcher d'ébranler les grilles fourraient des coups de baïonnette au hasard, dans le tas. Ils furent, généralement, impitoyables. Ceux qui ne s'étaient pas battus voulaient se signaler. C'était un débordement de peur. On se vengeait à la fois des journaux, des clubs, des attroupements, des doctrines, de tout ce qui exaspérait depuis 3 mois. Et en dépit de la victoire, l'égalité, comme pour le châtiment de ses défenseurs et la dérision de ses ennemis, se manifestait triomphalement. Une égalité de bêtes brutes, un même niveau de turpitude sanglante, car le fanatisme des intérêts équilibra les délires du besoin, l'aristocratie eut les fureurs de la crapule, et le bonnet de coton ne se montra pas moins hideux que le bonnet rouge. La raison publique était troublée comme après les grands bouleversements de la nature. Des gens d'esprit en restaient idiots pour toute leur vie. Le père Roch était devenu très brave, presque téméraire. Arrivé le 26 à Paris avec les Nogentais, au lieu de s'en retourner en même temps qu'eux, il avait été s'adjoindre à la garde nationale qui campait aux Tuileries. Et il fut très content d'être placé en sentinelle devant la terrasse du bord de l'eau. Au moins là, il les avait sous lui, ces brigands. Il jouissait de leur défaite, de leur abjection, et ne pouvait se retenir de les invectiver. Un d'eux, un adolescent à longs cheveux blonds, mit sa face au barreau en demandant du pain. M. Roch lui ordonna de se taire, mais le jeune homme répétait d'une voix lamentable : « Du pain ? Est-ce que j'en ai, moi ?